Avec lui, tu veux rester poigné dans le trafic. Avec lui, jamais besoin de reprise. Le but est tout le temps bon. Pour tout savoir, voici Martin Leclerc.
Bon matin, Martin, comment vas-tu?
Bon matin, Greg, en pleine forme ce matin pour terminer l'année. Je t'écoutais en début d'émission. Moi aussi, c'est la première fois que je fais de la radio au 31 décembre.
C'est formidable.
C'est très agréable. Je suis content de le faire avec toi, sérieusement.
Ben écoute, tout le plaisir et l'honneur sont pour moi, Martin. Et je te remercie encore d'être avec nous dans le temps des fêtes. C'est pour moi, c'est un petit crochet que je mets sur ma bucket list radiophonique. Et j'espère que ce n'est que la première fois qu'on fait ça ensemble.
Ben pourquoi pas? Ça va peut-être être une tradition là, qu'on fasse partie de l'équipe des fêtes pour assurer la programmation. Mais c'est une période différente, c'est un peu plus détendu. Je trouve ça le fun. Honnêtement, je trouve ça très amusant.
Ben écoute, tant mieux. Je suis très heureux que ce soit le cas. Et effectivement, si on peut faire ça chaque année, ce sera avec grand plaisir. Martin, en fait, chaque année, tu connais toute une année. Toi, tu vois énormément d'événements, mais les années olympiques sont tout à fait spéciales. Et c'en a été une comme ça à Paris parce que, rappelons le contexte des deux dernières Olympiades, avec la pandémie, les mesures de sécurité et tout le reste, là, Paris arrivait dans un contexte où en fait, les Olympiques sont déjà controversés, mais ceux de Paris ont ramené énormément de capital, de sympathie mondialement dans des Jeux qui se sont vus plus verts que les autres et dans lesquels on a eu une cérémonie d'ouverture notamment qui a lancé ça de façon grandiose.
Oui, écoute, les Jeux olympiques, je passe ma vie à jaser avec des amateurs de sport, puis souvent les gens me racontent, tu sais, quand on parle des plus gros trips de sport que les gens aimeraient faire, souvent les gens me disent, si j'avais de l'argent, j'irais aux Jeux olympiques l'été, là, puis je passerais deux semaines là-bas, puis je m'achèterais tous les billets possibles, puis je ferais le tour de toutes les grandes compétitions, puis je me paierais un trip de sport incroyable. Les gens me disent souvent ça quand je leur demande de, tu sais, qu'est-ce qu'ils rêvent de voir en termes de compétition sportive. Puis moi, je suis très chanceux parce que j'ai probablement le plus beau beat possible là, quand il est question des Jeux olympiques. Mes patrons, moi, ils me disent « Va-t'en là-bas, va où tu veux, puis écris-nous une chronique par jour. » Fait que j'ai tout le terrain de jeu à moi, parce que la plupart du temps, quand tu es assigné aux Jeux olympiques, tu es assigné à un sport en particulier, une discipline en particulier, puis c'est ça que tu couvres pendant toute la durée des Jeux. Puis quand ton sport se termine, tu en couvres un autre. Ou quand tu arrives avec une équipe, quand tu travailles pour un journal, tu es deux ou trois journalistes sur place ou quatre, tu te sépares le travail, fait que tu n'as pas nécessairement le premier choix. Mais moi, j'ai toute la tarte à moi, fait que je me paye. J'ai toujours un trip incroyable. Puis les Jeux olympiques à Paris, c'était mes septièmes Jeux. Puis ça a été probablement les Jeux olympiques les plus sublimes que j'ai vus depuis le début de ma carrière. C'était organisé au quart de tour. La sécurité était, tu sais, on la voyait, la sécurité, là, parce que c'est pas tous les jours que tu vois des pelotons de 6-7 policiers ou 6-7 soldats se promener avec des armes longues tu sais, parmi la population et tout ça, mais c'était quand même très festif. Il y avait beaucoup d'effervescence. Les Français ont mis en valeur les sites patrimoniaux pour présenter les compétitions sportives. Fait que le volleyball de plage au pied de la Tour Eiffel.
Ah, c'était beau.
Les compétitions de sport équestre dans les jardins du château de Versailles, tu sais, c'était la natation dans la Seine, etc. C'était, honnêtement, c'était majestueux, là. Puis moi, ce qui m'a jeté par terre pendant ces Jeux-là, c'est la passion des Français pour le sport. Tu sais, nous autres, on travaille à une station sportive à Montréal, puis on s'entend, là, 90% du contenu, on parle de hockey. Mm-hmm. Mais en France, le quotidien le plus vendu à travers le pays, c'est l'équipe. C'est le quotidien l'équipe, un quotidien sportif. Puis quand tu lis les pages de l'équipe, on parle de 20-25 sports à tous les matins. Ils ont une grande culture sportive, les Français. Puis j'avais jamais vu ça dans les autres Jeux olympiques avant. Toutes les compétitions que j'allais voir, peu importe le sport, les gradins étaient remplis à pleine capacité, partout, partout, partout. Je suis allé voir un match de hockey sur gazon entre les Australiens, puis je me souviens pas si c'était la Nouvelle-Zélande. Peu importe, il y avait 14 000 personnes. Je suis allé voir un sport que personne connaissait, qui était là au jeu pour la première fois, le kayak cross. C'est une compétition dans une rivière artificielle de quatre kayaks qui essaient de contourner des
c'était vraiment
kayaks.
Intéressant à regarder ça à la télévision. Là.
Ah oui, c'était très... Mais tu sais, personne ne connaissait ça. Il y avait probablement 0,001% de population. Je me disais, je vais arriver là, il va y avoir 200 personnes dans les gradins. Il y avait 12 000 personnes, c'était plein. Il n'y avait pas un siège de vide.
Les Français savent tellement recevoir. Là. Ils sont incroyables.
Ah oui, absolument, absolument. Puis les compétitions qui étaient présentées dans les rues, les courses cyclistes, marathon, triathlon, nomme-les, il y avait 500-600 000 personnes qui se massaient sur le bord des rues pour voir passer ça. Là. Fait qu'il y avait une ambiance incroyable. Moi, je me suis promené en métro durant toute la durée des Jeux. Tu entrais dans le métro, les gens étaient en train de regarder des compétitions sur leur téléphone. J'étais au Stade de France un soir à l'athlétisme, puis il y a une course qui a été retardée. Là, une course d'athlétisme, on était sur le point de donner le départ. Les athlètes étaient sur la ligne de départ, puis on était obligé de retarder le départ parce que tout le monde, il y a eu comme une immense clameur dans la foule qui s'est soulevée, puis les gens étaient sur leur téléphone dans le stade, puis ils regardaient Léon Marchand en train de se qualifier pour une finale olympique. Fait que c'était une ambiance incroyable. Ça a été des Jeux, je te dis, mémorables. Je pense pas qu'il y a d'autres comités organisateurs qui vont réussir à égaler ça dans les 20, 30, 40 prochaines années. Ça a vraiment été des grands Jeux olympiques.
Tu as mentionné le marathon, puis juste pour te donner une petite anecdote, je suis certain que tu es au courant de ça. Le parcours du marathon est excessivement difficile et tu l'as dit, on l'a rendu difficile pour mettre tous les... Tu sais, on passait devant le château de Versailles, devant la tour Eiffel, devant tous les monuments parisiens. C'est un parcours absolument magnifique et on a organisé une compétition qui s'appelait le Marathon pour tous, dans lequel on invitait 10 000 personnes à aller courir. On a fait tirer des dossards en faisant des défis en ligne sur une application. Et monsieur, madame, tout le monde pouvait aller courir ce marathon-là à condition d'être entraîné. Ma blonde l'a fait. Et elle a couru ce marathon-là. Le départ a fini par être donné à 22 heures et même à 2 heures du matin. Il y avait des gens partout dans les rues qui étaient encore en train d'encourager. C'était pas le marathon olympique, là. Je les ai vus passer, là. C'était juste des gens qui étaient là, qui couraient le marathon. Et il y avait des gens. Elle dit, on se sentait vraiment comme si on était des Olympiens, Olympiennes. C'était incroyable. Donc, c'est juste pour ajouter à ce que tu amènes comme la foule française qui, pour avoir participé à quelques événements là-bas, répond toujours présent. C'est probablement une des meilleures foules au monde, sinon la meilleure. Et ils l'ont prouvé encore une fois.
T'sais, la passion pour le sport, on tient pas ça du voisin. On a des souches, souches françaises. Puis ce marathon-là populaire dont tu parles, là, qui a été organisé durant la nuit. Ma patronne y a participé, Catherine Dupont.
C'est vrai?
Ça a été... Non, ça a été un moment exceptionnel, organisé au quart de tour. Moi, j'étais très, très fier d'être un cousin des Français durant ces Jeux-là.
Certainement. Et qu'est-ce que tu as vu? Tu nous as parlé là, globalement là, de... Mais as-tu certaines autres compétitions, des médailles qui t'ont marqué là-bas à Paris, Martin?
Oui, mais tu sais, quand je vais aux Jeux olympiques, je me fais toujours un devoir d'être à la piscine le soir quand c'est durant la semaine de compétition, la natation, parce que c'est extrêmement spectaculaire. Il y a beaucoup d'atmosphère, d'effervescence. Je m'arrange durant la semaine de l'athlétisme, je m'arrange pour être là aussi à tous les soirs pour voir qu'est-ce qui se passe dans le stade. Puis durant le reste de la journée, je me promène ailleurs, je vais voir d'autres sports. Mais l'événement qui m'a le plus marqué, moi, puis je pensais pas dire ça parce que je suis pas un gars de basketball, tu sais, je m'intéresse de loin au basket puis je regarde des matchs une fois de temps en temps, mais la médaille d'or que les Américains ont remportée contre la France en finale, tu sais, Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant dans la même équipe, ça a été un match d'anthologie. Moi, une des performances sportives les plus impressionnantes que j'ai vues de toute ma carrière ce soir-là de la part de Steph Curry. Puis juste pour raconter un peu, pour mettre les affaires en situation, là, en demi-finale, les Américains avaient failli se faire sortir par la Serbie. Ils perdaient par 13 points au quatrième quart. Puis ça leur avait pris toute leur petite monnaie là, pour réussir à gagner ce match-là. C'est Steph Curry qui avait sauvé le match, avait marqué 36 points. Puis quand les Français se sont qualifiés pour la finale, les Français, ils croyaient que c'était le moment de leur... Tu sais, il y a eu le Miracle on Ice au hockey, là. Puis eux autres, ils se disaient, là, ça va être le miracle sur parquet, là. On est capable de battre les Américains. Puis les Français avaient une équipe qui était très physique, tu sais. Ils ont Wembanyama qui jouait pour la France, Rudy Gobert, un gars de la NBA aussi, Evan Fournier, un gars des Pistons de Détroit. Tu sais, c'était pas des gars qui sortaient de nulle part, là. C'est une équipe qui avait beaucoup de vécu. Puis c'est une équipe très, très physique. Moi, je les avais vus en quart de finale contre le Canada. Ils avaient brassé les Canadiens. Là. Ils les avaient dominés physiquement, puis ils les avaient complètement écrasés. Et là, c'est ça, les Français pensaient qu'il y avait une chance. Puis finalement, bon, le match commence. Les Américains ont mené pas mal tout le long. Mais avec 3 minutes à jouer, Wembanyama s'est mis à enchaîner une coupe de séquences heureuse. Puis avec 3 minutes à jouer, il y avait 3 points de différence entre les deux équipes. Puis là, que tu sentais le momentum tourner dans l'aréna. Là, tu sais, on s'entend, on est en France, ce sont les Jeux olympiques des Français, c'est juste des Français qui sont dans les gradins, tout le monde est debout, les Américains ils sont en territoire ennemi, puis là, tu le sens que le bateau commence à
aller mal.
Oui, ça commence à aller mal. Là. Puis là, Steph Curry, mon vieux, je te dis, c'est une performance d'anthologie. Là. Steph Curry s'est élevé. En l'espace de 2 minutes, il a réussi 4 tirs de 3 points. Puis c'était de la poésie parce qu'on s'entend, les Français le surveillaient. Ils savaient que le ballon allait aller à Steph Curry. Puis il chargeait Steph Curry. Puis Curry faisait un petit pas de côté, il prenait son tir, swoosh.
Incroyable.
Puis c'est ça, rendu à 30. Quelques secondes de la fin, Curry, il y a un Français qui a agrippé Curry, qui lui a donné une poussée pendant qu'il y avait le ballon, et Curry était en train de tomber vers l'arrière, il a quand même lancé vers le panier, puis il a réussi le 3 points, et ça a porté le pointage, c'était 96-87, il restait 30 secondes à jouer, puis là, Curry s'est mis à courir tranquillement vers sa zone, il a collé les paumes de ses deux mains ensemble, puis il a mis ça sur sa joue en mimant quelqu'un qui s'endort. c'était comme pour dire aux Français, vous êtes morts, c'est terminé, je viens de vous planter le dernier coup de poignard.
Ah,
et c'était, oui. Je te dis, j'avais jamais vu j'ai vu des performances extraordinaires, là, mais c'est une des top 5 performances de domination, de prise en contrôle de situation d'un match important sur la plus grande scène du monde. C'est un match qui m'a vraiment, vraiment impressionné. Moi, c'est quand je suis revenu de Paris, c'était le moment qui était gravé dans ma mémoire.
Et il y a eu des surprises canadiennes également, des bonnes, des mauvaises, mais comment passer sous silence? Moi, le premier, je m'en attendais pas du tout, mais le 4x100 mètres, on a vécu ça ici, nous autres, à BPM, juste avant d'entrer en onde, le 4x100 mètres pour aller chercher la médaille d'or pour la première fois depuis 1996, qui était probablement... On demandait là, dans l'histoire canadienne là, quels sont vos plus grands moments olympiques. Et t'en as deux qui ressortent du lot. C'était le relais 4x100 mètres à Atlanta et le fameux but en or de Sidney Crosby. Mais là, ça vient s'ajouter là-dedans également. Là.
Oui, absolument. Puis surtout que le Canada avait sur papier à peu près aucune chance de remporter cette médaille-là. Là. Tu sais, à Atlanta, en 96, le relais historique là, qui avait gagné devant les Américains sur le terrain des Américains à Atlanta, c'était inscrit à jamais comme un des plus grands moments de l'histoire canadienne, mais là, il faut se retremper. Là, à Paris, André Degrasse est blessé. Il s'est pas qualifié pour la finale du 100 mètres. Il s'est pas qualifié pour la finale du 200 mètres. il est 28e au monde sur 100 mètres. Il a juste fait le 28e chrono mondial. T'as Aaron Brown qui a fait le 100e chrono mondial. T'as Jérôme Blake qui a fait le 173e chrono mondial. Puis t'as Brandon Rodney qui complète le relais, qui était 59e au 200 mètres. Il est même pas sur la map là, dans les meilleurs chronos aux 100 mètres. Et ces quatre-là se sont alignés sur la ligne de départ et ils ont fait une exécution parfaite. Et c'est ça le 100 mètres. C'est le relais 4 fois 100 mètres, c'est un autre sport. C'est pas juste d'aligner quatre gars qui sont rapides qui est important. Il faut que le timing soit là. Il faut que l'exécution soit parfaite pour faire un bon chrono. Puis la preuve, c'est que les Américains réussissent toujours à saboter leur relais 4 fois 100 mètres. Ils remettent mal le témoin. Ils se qualifient pas parce qu'ils l'ont échappé, parce qu'ils ont dépassé la ligne de remise. Ils sont pas capables de travailler en équipe, les sprinteurs américains. Mais écoute, cette victoire-là, c'était probablement la médaille d'or la plus inattendue des Jeux olympiques. Puis il y avait quelque chose de beau là-dedans parce que l'entraîneur, c'était Glenroy Gilbert qui était membre du relais de 96 à Atlanta avec Bruni Surin, puis avec Donovan Bailey, puis avec Robert Esmy.
Et Bruni, qui était le chef de la délégation canadienne également.
Exact, exact. Alors, ça a été un moment extrêmement particulier. Moi, la dernière médaille à laquelle je m'attendais à ces Jeux-là, c'était la médaille du 4 fois 100 mètres canadien. Là.
Je dois te poser la question. Tu nous as mis une petite note de Formule 1 dans tes meilleurs moments, mais qu'as-tu pensé du changement de Lewis Hamilton vers Ferrari? Aurais-tu pensé ça? Je sais que tu as couvert la Formule 1 pendant longtemps, que tu es un fan de Formule 1, Martin, comme moi. Ça a été quoi ta réaction à ce moment-là?
Écoute, moi, je me suis... Tu sais, les pilotes de F1, ils perdent la vitesse à un moment donné. On s'entend avec l'âge, là, puis c'est difficile à expliquer. À un moment donné, tu perds une fraction de seconde ou...
Le temps de réaction, mais physiquement oui. Également, ça a été documenté qu'après la marque des 300 courses, je crois, là, on l'a vu avec Michael Schumacher notamment, on l'a vu avec Fernando Alonso aussi, qui ont connu des fins de carrière plus lentes, passé leur prime, et Lewis qui tente de défier l'effet du temps sur le corps, si on veut.
Exactement. Et moi, pour cette raison-là, ça m'a surpris que Ferrari aille chercher comme ça un pilote. On s'entend, Lewis Hamilton, ses meilleures années sont derrière lui parce qu'il y a eu des maudites bonnes années. Auparavant, il y a eu une des très grandes carrières de l'histoire de la F1. Et sur le coup, j'ai été un peu surpris que Ferrari dise, on a Charles Leclerc, un jeune pilote qui est à son apogée, qui est très rapide, qui n'a peut-être pas la meilleure monoplace, mais qui est certainement identifié comme un top pilote au sein du plateau, puis on va aller chercher un vétéran comme Hamilton. Je pense que pour la visibilité de Ferrari, c'est incroyable. Hamilton aussi, peut-être, je pense que ça va le secouer aussi. À un moment donné, quand tu es toujours dans le même environnement à F1, tu tombes peut-être dans pas une zone de confort, mais une zone d'habitude, un niveau d'excitation qui est peut-être plus là. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme effet sur Hamilton, sur la fébrilité, sur son pilotage. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va faire à Ferrari aussi, parce que tu regardes Hamilton cette année par rapport à son coéquipier, George Russell, ça n'a pas été, tu sais, il s'est fait battre constamment par George Russell. Je suis pas convaincu qu'il y avait le meilleur équipement disponible dans l'écurie parce qu'on savait qu'il s'en allait. Mais j'ai très, très, très hâte de voir quel effet ça va avoir comme effervescence dans l'écurie, mais sur Lewis Hamilton aussi.
J'ai hâte d'en parler avec toi, Martin, lorsqu'on se croisera, parce que la saison de Formule 1 va commencer au début du mois de mars. Lewis va faire ses essais fin janvier. D'ailleurs, ce sera diffusé partout là, par les médias sociaux de Ferrari cette première journée-là. Martin, merci beaucoup. On te souhaite tout le meilleur pour 2025. L'année sportive va être dure à battre, celle de 2024, mais on pourra se faire peut-être les souhaits sportifs en 2025 dès vendredi matin.
OK, écoute, avec grand plaisir, puis je veux juste en profiter pour souhaiter bonne année à tous ceux qui nous écoutent, qui sont là avec nous autres le matin, l'après-midi, le soir. C'est vraiment stimulant, je trouve. Moi, je suis revenu à la station cette année. Là, j'avais fait l'impasse l'année passée parce que j'avais toutes sortes de choses à faire côté travail, mais c'est très stimulant de savoir que de plus en plus de monde qui nous écoute. Puis je veux juste vous dire bonne année à tout le monde. Puis oubliez pas ce soir de dire à tous ceux qui sont avec vous que vous les aimez, que vous êtes contents d'être là avec eux. Puis on va s'arranger pour avoir une belle année 2025 ensemble.
C'est très bien dit. Et par ailleurs, on sait que tu as fait l'impasse pour écrire le livre, la biographie de Gilles Lupien que j'ai d'ailleurs sur ma table de chevet et que je vais amener au Centre Bell pour me la faire dédicacer si tu veux bien.
Ça va me faire plaisir. Mon vieux, j'arrête pas de recevoir d'ailleurs des messages de lecteurs qui l'ont acheté, qui l'ont lu, qui l'ont dévoré. Puis ça, c'est le plus beau compliment. Tu sais, souvent, les gars de sport, c'est pas des grands lecteurs de livres. Tu sais, ils lisent les pages sportives, puis ils lisent beaucoup sur Internet. Puis le plus beau compliment que je reçois, c'est des gars qui me disent « Écoute, moi, je lis un livre par deux ans, j'ai acheté le tien, puis je l'ai lu en deux jours, et je l'ai dévoré. » Il y a vraiment beaucoup de bonnes histoires là-dedans. Puis écoute, j'espère que tous ceux qui l'ont acheté ou qui vont l'acheter l'ont aimé. J'ai mis beaucoup de travail là-dessus. Ça a été un des beaux moments de mon année 2024 aussi.
Faites-vous un cadeau. Allez acheter ce livre-là de Martin Leclerc. Merci encore, Martin. Passe une excellente journée et on se reparle vendredi matin.
Parfait. Bonne année tout le monde. Bye-bye.
Salut à toi aussi.